Radio Résistante, il est temps de résister.
Vous êtes bien sur Radio Résistance, la radio qui a posé sa caravane au Festival des Résistances dans le plateau du Larzac. Et on va faire un petit plateau de une heure avec les Naturalistes des Terres qui eux aussi participent donc à ce festival. Et donc on va pouvoir évoquer plusieurs sujets avec vous. Et donc évidemment vous, à commencer par vous, ce que sont les Naturalistes des Terres. On va commencer par ça et puis après on fera un petit tour sur ce que vous faites et ce contre quoi vous portez votre propre récit. Et donc on peut peut-être commencer. Alors c'est quoi les Naturalistes? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous autour de la table?
Bonjour. Du coup on se présente tous peut-être. Moi c'est Anaïs, je fais partie des Naturalistes des Terres et je fais partie de la commission Récits.
Moi c'est Lapi, je fais partie des Naturalistes des Terres aussi et j'étais pas mal engagée sur le quartier des Lentillères pour faire des inventaires naturalistes.
Je suis Jean-Alfredo, Naturaliste des Terres et je fais partie également de la commission Récits.
Et moi Anne, et je fais partie aussi de la commission Récits des Naturalistes des Terres.
Et Carmen, et du coup je fais aussi partie de Naturalistes des Terres, voilà quelle surprise. Est-ce qu'on fait un petit mot sur les Naturalistes des Terres?
Ouais.
Et puis, ou alors tu veux te présenter peut-être?
Moi c'est Anti, je suis wannabe Naturaliste des Terres mais pas encore complètement.
En recrutement.
Alors les Naturalistes des Terres.
Ouais, les Naturalistes des Terres c'est un collectif assez jeune qui s'est créé il y a un peu moins d'un an. Qui est un collectif qui a pour vocation de politiser et de mettre en lien des naturalistes professionnels ou amateurs avec des luttes locales. Voilà, si quelqu'une veut compléter.
Ouais, ça passe par un outil de cartographie en fait qui est en ligne et qui permet aux naturalistes qui veulent mettre leurs compétences au service de collectifs de mettre leurs contacts dans leur région et d'être du coup contactés par les collectifs. Et ensuite, il y a plein d'autres dimensions de ce collectif de naturalistes des terres puisque il est ouvert du coup aux naturalistes professionnels, aux naturalistes amateurs, et il y a aussi des gens qui ne sont pas naturalistes de profession, qui sont en train de se former, mais pour qui c'est une question, une dimension hyper importante en fait de leur engagement politique ou de leur sensibilité personnelle. Et du coup, nous voilà, la commission Récits, en fait, on prend un peu en charge, en tout cas on travaille cette dimension-là du collectif, c'est-à-dire on pense que se doter en fait de récits sensibles qui restituent de la présence et de l'agentivité aux autres vivants dans les luttes et à l'extérieur des luttes, dans nos expériences en fait de découverte de la nature, c'est une dimension hyper importante.
Donc on va voir, elle est complètement oubliée de cette activité naturaliste telle qu'elle est pratiquée par les personnes qui portent les projets d'aménagement contre lesquels ces collectifs luttent, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir développer ces contre-récits, voilà, il faut un peu contre ce récit mine de rien, et bien c'est peut-être de partir de celui justement des promoteurs, de ceux qui produisent une activité naturiste et écologique qui n'est pas celle que vous portez, et notamment celle des bureaux d'études et des aménageurs de l'environnement, enfin des aménageurs du territoire, et peut-être commencer, vu que j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là, par développer ce qu'est leur activité naturiste et leur récit, comme ça vous allez pouvoir développer le vôtre. Alors peut-être ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité naturaliste, elle a eu un gros développement d'activité depuis une vingtaine d'années maintenant, dans le cadre des projets d'aménagement du territoire, puisque chaque projet d'aménagement doit avoir une évaluation de l'impact environnemental dans le but d'avoir des autorisations environnementales, et on verra peut-être éventuellement donc de compenser cet impact. Et en fait, cette évaluation environnementale, elle est faite par des naturalistes qui ont été recrutés massivement il y a maintenant entre 10 et 20 ans, et pour réussir à inventorier tout ce qui va être détruit par les projets d'aménagement, avec le but de quantifier ce qui va être détruit, d'en faire la liste, de compter les choses, de compter les mares, de compter les insectes, et donc voilà, c'est des très longues campagnes comme ça sur une année complète d'inventaire de ce qui va être détruit. Et donc voilà, avec dans le but de quantifier tout ceci pour réussir à, d'après les aménageurs, réussir à produire des mesures compensatoires, ce qu'ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, de réussir à compenser ce qui va être détruit. Donc il y a toujours deux volets, hein, on compte, on fait l'inventaire, et puis ensuite on va essayer de produire quelque chose qui va essayer de compenser cet impact, et donc cette mesure compensatoire, le plus souvent, elle prend des formes assez classiques. C'est on va planter des haies, on va creuser des mares, on va replanter des prairies, on va même des fois y mettre un éleveur, puisque les éleveurs dans les prairies sont l'activité un peu presque désormais exotique, mais en fait un peu qui a longtemps prévalu en France et qui est un peu le degré zéro, enfin le niveau zéro de l'environnement en France, qui est la prairie pâturée avec son cortège d'espèces. Et une fois ceci, donc ça pose évidemment première chose, c'est la question de l'équivalence écologique. Comment est-ce qu'on peut prouver que la destruction d'un endroit qui est une prairie pâturée avec des haies va être compensée par le creusement de mares et l'ensemencement d'une autre prairie qui sera différente? Et voilà, il y a des équivalences à faire. Et donc c'est une première déjà vue de ce qu'est l'environnement pour ces personnes-là. C'est-à-dire c'est déjà des environnements, des espèces qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre ailleurs. On peut l'une, on va en valoir une autre. Et voilà, on peut faire comme ça un grand jeu sur ces espaces-là. Et la deuxième chose, c'est que il va falloir faire tous ces inventaires, et ceux-ci sont faits donc par des bureaux d'études qui embauchent massivement des naturalistes qui vont produire un dossier d'environnemental qui sont des alors moi j'en ai déjà eu en main, c'est des dossiers qui font entre quelques centaines à quelques dizaines de milliers de pages, parfois elles arrivent dans des énormes cartons portés par un diable, et c'est l'inventaire de tout ce qui va être détruit. Et c'est assez hallucinant, comme ça, une sorte de volume comme ça, et qui font sous la forme d'atlas cartographique où à chaque fois est pointé, il y a actuellement une espèce, et puis on sait qu'à échéance elle n'y sera plus, et puis il y a d'autres cartes qui sont là on va en remettre une, voilà. Et ce qui fait qu'on a comme ça une grande vue du ciel. C'est souvent des orthophotoplans, enfin les images vues du ciel, des photos directement comme sur Google Earth, hein, ou des cartes, et puis c'est vu d'en haut comme ça, et jamais vu d'en bas, jamais vu à niveau. On a très rarement la photo du champ, on a souvent vu d'en haut, on a un tracé de champ, et il est d'une couleur particulière, qui est un aplat de couleurs, et qui dit ici il y a telle fonction écologique, ici il y a telle espèce, et puis on va pouvoir les déplacer. Alors ça prend des couleurs avec un vert pour dire c'est très important, un rouge pour dire ici c'est pas très important, et donc voilà des codes couleurs sur des grands aplats vus d'en haut, et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire une évaluation de l'environnement. Et en fait, je trouve que c'est assez hallucinant quand on parcourt ces pages comme ça, c'est qu'on y voit une écologie, un naturaliste vraiment vu d'en haut, vu du ciel, quoi. Et d'ailleurs, la première chose que les naturalistes font en bureau d'études, c'est qu'ils consultent la carte hygiène, et puis ils ont le tracé sur place, et puis on est d'abord vu d'en haut, quoi. Et après, on ira voir sur place, quoi. Et on verra, donc vous, justement, voilà, comment ça se fait, vous, quoi. Et ensuite, eh bien, il s'agit donc de rédiger le dossier, et donc de voir que ici il y a telle fonction écologique, et donc on fait de la prospective de fonction écologique. Alors ici il y a un bois qui est pas en très bon état, et on l'a en tête parce qu'il va pouvoir être amélioré pour pouvoir compenser la destruction de quelque chose ailleurs. Et du coup c'est toujours une vision très fonctionnelle sur l'espace dans lequel on est, où tout de suite on a une vision. Alors c'est des parcelles, c'est des fonctions, c'est du linéaire, et qu'on va pouvoir améliorer, déplacer comme ça. Et donc vous nous direz, vous, ce que l'idée que vous vous faites de ce que devrait être une activité naturaliste. Et du coup, ce qu'on peut retenir un peu de tout ça, c'est que on a l'autre élément qui va être important pour vous, j'imagine, c'est une très très grande asymétrie dans la capacité à faire ses études. C'est-à-dire qu'en fait, un bureau d'études, ce sont des entreprises, elles sont financées directement par l'aménageur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est déjà l'aménageur, c'est Vinci qui va la financer, cette étude, et c'est pas du tout neutre, ça, ceci. Vinci va faire l'auto-étude de ça. Et il finance pour ça des bureaux d'études, et ces bureaux d'études, ils embauchent des naturalistes qui sont très souvent en contrat précaire, qui sont parfois sur des saisons de 6 mois, et puis après, ils sont en CDD, puis on en prend d'autres, voilà. Et donc, une grande précarité de ce travail-là. Et qui par ailleurs est très outillé, c'est-à-dire qu'en fait ils ont des machines qui coûtent, des serveurs qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros pour réussir à faire même maintenant du deep learning sur, ils écoutent les chants d'oiseaux avec des capteurs automatiques, et puis la machine va faire une première sélection de l'inventaire qui se fait automatiquement. déjà, est-ce que c'est ça, une activité naturaliste? Eh bien, en bureau d'études, ça peut être ceci. Pareil pour les chauves-souris, c'est des dizaines de milliers d'heures d'enregistrement qui sont analysées automatiquement. Et ça va être aussi des gens qui vont passer leur journée à faire l'inventaire de champs en grande culture qui n'ont absolument aucun intérêt, mais qu'il faut faire l'inventaire. Et donc, on fait comme ça des grandes battues dans ces espaces vides qui sont déjà des déserts écologiques, mais il faut quand même faire cet inventaire du rien. Enfin, voilà, face à ça, les personnes qui s'opposent à ces projets doivent produire une étude environnementale et aussi, sauf qu'ils n'ont pas du tout ces moyens-là, ou du moins pas forcément. Et du coup, quand on est le seul naturaliste, faire face à un bureau d'études qui a la capacité de faire 6 mois d'études pleines avec 5 salariés à temps plein, avec du matériel et tout, évidemment, la valeur, la quantité de données produites, elle va être beaucoup, beaucoup plus fine. Et du coup, comment on fait face à ça pour retrouver une sorte de symétrie des forces en présence sur ça? Et vous allez pouvoir nous en parler. Et donc, ce qu'on peut dire ainsi, c'est que sur l'activité naturaliste qui est très largement développée dans le cadre des projets d'aménagement, c'est largement un inventaire avant liquidation, dans lequel on a une activité écologique au service de l'aménageur. Et puis voilà, on fait. C'est bizarre comme naturaliste de faire ça. C'est-à-dire que quand on trouve quelque chose qui est chouette, c'est emmerdant parce qu'on sait qu'il va être détruit et on vient de collecter quelque chose qui n'existera plus, quoi. Et enfin, la deuxième, c'est comme ça une écologie extrêmement vue d'en haut. Et en fait, c'est une écologie des aménageurs. De la même façon qu'on peut déplacer des gens, les exproprier, de la même façon, on peut exproprier une espèce et une fonction et puis la mettre ailleurs, ce sera très bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'imaginaire qui est porté par eux, qui est porté par les évaluations environnementales dans le cadre des aménagements, avec en vue la compensation écologique. Et rien que ce mot, déjà, il dit beaucoup. Pour information, la nouvelle loi sur la compensation écologique parle de réserve d'actifs naturels pour parler des espaces dans lesquels on va pouvoir faire la compensation écologique. Alors, c'est des mots qui résonnent comme ça, qui sont évidemment à des milieux de ce qu'on pourrait imaginer être l'imaginaire écologique et naturaliste, quoi. Ouais. Moi, ouais.
Bah, merci beaucoup, Liam, pour cet exposé. Et avant de passer à la suite, je vous propose une petite respiration musicale, comme on dit dans le milieu radiophonique. C'est vous qui avez choisi cette chanson de Loup-Barout. Est-ce que vous voulez expliciter votre choix ?
Oui, alors déjà, elle est très belle. j'y ai pensé parce que Loup-Barout, c'est un groupe occitan et qui du coup est très lié à ce territoire-là, qui écrit beaucoup de chants sur ce territoire-là. Et cette chanson en particulier parle de liens à la fois via la langue et via le fait d'habiter quelque part, et du coup parle de la colonisation à la fois étatique et capitaliste, de ces liens-là que ce groupe a pu développer et hériter via la langue occitane avec leur territoire.
Indigenas, et on retrouve ensuite les naturalistes des terres.
Il fa trop de temps sans souvenir pas plus. Campiglian nostro steros, la costume luz, crema nostros mascos, el enfant crédia la lune al présent conjugado. Los muses son calas en Perú. Per brama la culera.
Eh ben, merci Liam pour la présentation de ce protocole naturaliste un peu hors sol. Et tu parlais de vue du haut et de on va mettre des espèces là, etc. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il se prenait un peu pour Dieu. Et du coup, là, on va parler d'un naturalisme plutôt à hauteur d'homme et de femme. Et donc, je vais laisser la parole aux naturalistes en lutte, la commission Récit.
Oui, alors c'est clair que là, la manière dont tu as présenté comment les savoirs naturalistes peuvent être mis au service de projets destructeurs, en fait, ou captés au service de ces projets-là, c'est clairement ce contre quoi les naturalistes des terres veulent... ce à quoi ils veulent s'opposer. Et en fait, les naturalistes des terres, c'est un espace aussi qui invite les naturalistes qui se sentent coincés justement dans ces configurations qui sont complètement aliénantes à politiser leurs pratiques en rejoignant ce collectif qui du coup permet d'essayer de se fédérer pour se soutenir en fait dans un contre-feu justement par rapport à ça. Et du coup je sais qu'il y a une forme de un peu de reclaim quoi des savoirs naturalistes qui peuvent être effectivement désanimants comme on le voit où les vivants ils sont saisis uniquement dans des listes, dans des inventaires et ils sont comparés des actifs naturels substituables du coup. Mais justement dans les naturalistes des terres en fait l'idée c'est de retourner ces outils-là pour faire de la contre-expertise. Donc l'inventaire, c'est pas que l'inventaire en soi est problématique, c'est juste qu'il est nécessaire mais qu'il n'est pas suffisant, mais ça on verra, on en parlera par la suite. Mais du coup ça permet ces inventaires, cette contre-expertise de poser des recours juridiques et d'entrer dans une bataille en fait contre ces projets par la mobilisation de savoirs naturalistes. Et puis il y a aussi un enjeu qui est peut-être moins... plus sensible, en tout cas moins directement dans l'efficacité opérationnelle. Mais on pense que cette question de la sensibilité, en fait, elle est hyper importante pour, élargir, animer les luttes, peut-être réanimer les luttes et les élargir à d'autres présences, en fait, que des présences humaines et des problèmes d'humains. Et que, en fait, les naturalistes des terres, ils essaient de contribuer par les savoirs naturalistes qui sont, en fait, fondés sur des relations d'émerveillement et de connaissances, en fait. Ce que, globalement, dans la société, on a perdu. En tout cas, on a perdu. En tout cas, on n'est plus en relation quotidienne avec la nature autour de nous. Et il y a un biologiste américain qui parlait dans les années 50 de extinction de l'expérience de la nature. Du coup, c'est une forme d'extinction qui est une extinction sensible, qui est une extinction intérieure en fait, et qui fait que autour de nous, on est beaucoup à plus être capable de nommer en fait, ne serait-ce que nommer les vivants qui nous entourent et d'avoir des relations avec eux. Et on pense que les naturalistes des terres, ils peuvent aussi par la création de récits qui sont nourris par ces savoirs-là, contribuer en fait à ajouter une dimension joyeuse et sensible aux luttes.
On peut atterrir en essayant de vous présenter un événement qui s'est passé donc au quartier des Lentillères à Dijon, où justement on a détourné un protocole scientifique d'inventaire pour le rendre connecté aux habitants du site. Et justement placer ces émerveillements et ces relations au cœur de cette action qu'on a fait tout un week-end. Donc c'était porté par France Nature Environnement Jura, entre autres, et le quartier des Lentillères.
Qui est du coup, dans quelle région de France ? C'est un quartier libre et autogéré de 8,5 hectares à Dijon. Et ça fait bien 10 ans qu'il y a entre 50 et 100 personnes qui y vivent à l'année. C'est vraiment un îlot de biodiversité au plein cœur d'une ville qui est hyper urbanisée. Et ce quartier donc, de 8 hectares est menacé d'artificialisation par un projet d'écoquartier. Et il y a 2 hectares qui sont vraiment menacés assez... Il y a pas mal de pression sur 2 hectares.
Et du coup, c'était ça aussi l'idée de mener un contre-inventaire, en tout cas un inventaire naturaliste sur ce quartier-là, pas en vue de le détruire, mais au contraire de utiliser cette biodiversité qui est présente sur le quartier comme cause de, ben, justement, ce quartier, c'est un abri et il faut le garder. Et pour mener cet inventaire, on a essayé de sortir des inventaires naturalistes classiques pour pas rendre simplement des chiffres sur un tableau Excel avec des nombres qui est complètement froid et qui n'a pas de sens. Enfin, derrière, on les oublie, quoi, ces chiffres. Et donc, on est allé en amont du week-end naturaliste rencontrer les habitants de ce quartier, donc qui vivent au quotidien avec les non-humains du quartier. Donc on a recueilli un peu chacun chacune leurs histoires, leurs anecdotes, les espèces qui elles ont vu ou pu observer. Et on les a invités après à venir avec nous sur les balades et à mener des balades avec nous tout au long du week-end pour chercher ensemble qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce quartier. Et la petite idée derrière la tête, c'était d'essayer de trouver une espèce protégée un peu emblématique ou en voie de disparition qui pourrait sauver ce quartier-là. Mais finalement, c'est un fantasme et on ne l'a pas forcément trouvé. Mais ce qu'on a trouvé, c'est sûr que, en tout cas, il y avait plein de fauvettes à tête noire dans tous les recoins, tous les buissons. Et le caractère vraiment de refuge et abri de ce quartier-là s'est confirmé. Et en fait, au moment de la restitution, donc on a fait ces balades tous ensemble. Et après, c'était comment on raconte aux autres ce qu'on a vu sur ce quartier-là. Et donc là, on a choisi la forme d'anecdotes où je pense qu'on était une centaine à ce moment-là et chacun, chacune choisissait de raconter une anecdote qu'on avait vécue pendant le week-end ou alors avant, sur le quartier. Et ça a plutôt bien pris et finalement les anecdotes s'enchaînaient et ça ne s'arrêtait plus et là on voyait aussi qu'il y avait une vraie relation en tout cas avec les espèces sur le quartier et que tout le monde avait connaissance de ces espèces et une envie vraiment de protéger cette relation hyper privilégiée en fait qu'on peut avoir en plein centre-ville avec les renards qui passent, les hérissons.
Moi, j'avais rencontré un naturaliste des terres dans un tout autre contexte, dans le sud Cévennes. Et avec lui, j'étais allée profiter d'une balade ornithologique, une manière de ne plus voir notre paysage, mais en tout cas de l'entendre ou de le voir avec les oreilles. Ça se passait entre la vallée de la Salindrinque et la vallée du Vidourle. Et je vous propose une petite balade en forêt avant de poursuivre cette discussion.
Oh, c'est fou. Oui, ça marche. Je m'excuse.
Il y a plein d'oiseaux qui chantent. J'essaie de vous en isoler. Il est rentré là, le tout. Il vient genre de par là.
J'ai du merdé à l'espoir.
Attends, j'ai essayé de vous montrer le son. Ça. Je recommence.
Ah oui, ça j'ai entendu. Là,
vous avez entendu, il y a plein de chants en même temps, c'est difficile de vous les isoler.
Des trucs radio là qui...
Là. Ah oui. Tout. Ouais.
Et ça c'est quoi?
Là, ça je pense c'est une maison. C'est celle qu'on a entendue tout à l'heure. Elle est là. Ouais, c'est ça, là il y a une maison charbonnière. Là si vous le voyez sur la branche, sur un mâle, il a une grande cravate noire. Il est un peu en train de bouger, il est vraiment en face de nous, là. Il bouge, tac, là il s'est déplacé, je sais pas si vous le voyez, là il s'est envolé. Oui. Voilà, maison charbonnière. Et il y en a une autre là-bas qu'on voit sur la branche, elles sont deux.
Putain, t'as l'œil. Hein.
Ah oui, ouais, là, tac, ouais. elle va se rapprocher de nous, elle vient nous voir.
Ah oui,
elle se demande ce que c'est. Maison charbonnière, là c'est une femelle, on voit, la gorge est moins. Il y a une cravate, en fait c'est ventre jaune, je vais vous sortir mon livre. Ventre jaune avec un trait noir. Donc là c'est la femelle, donc c'est sûrement un couple. Donc ils doivent nicher pas loin.
C'est le début.
Ouais. Là on entend quand même les anges, hein. Il y a vraiment, c'est des vraies relations quoi. Il y a des études sur les rouges-gorges qui montrent que les oiseaux, les rouges-gorges sur un même territoire, ils n'ont pas les mêmes comportements entre eux, quoi. Il y a un Américain qui a passé plusieurs années à suivre les oiseaux proches de chez lui et à étudier leur comportement interpersonnel. Et par exemple, il se rend compte que c'est hyper marrant parce que du coup, il écrit un peu en mode narré comme une histoire. Et donc, il explique que le rouge-gorge numéro 2 déteste le rouge-gorge numéro 4. Et que du coup, dès que le rouge-gorge numéro 4 rentre sur son territoire, il lui fonce dessus pour lui faire comprendre qu'il ne veut pas de sa présence. Par contre, il est hyper pote avec le rouge-gorge numéro 6, à qui il a laissé l'été dernier un endroit où il y avait pas mal de nourriture. Et en fait, voilà quoi, on voit qu'il y a vraiment des humeurs et des humeurs compatibles ou pas. Voilà. Ça, j'ai essayé de vous le faire écouter tout à l'heure, mais il y avait trop de sons différents. Ça, c'est un chant qui est assez simple à apprendre au début. C'est le chant du pinson des arbres. Je vais vous montrer une photo. Et du coup, le pinson des arbres, vous voyez, il a toujours la même strophe. Un truc un peu comme ça, là, qui monte et qui descend. Et lui, il est simple à reconnaître parce qu'il a ce chant qui est toujours le même, très caractéristique. Et aussi parce qu'il chante en moyenne toutes les 8 à 10 secondes en période de reproduction. Souvent, on a eu l'idée que le chant, c'est un truc un peu viril de mec. C'est bien connu, les hommes, pour séduire, il faut qu'ils soient forts et beaux. Bah, les oiseaux, c'est pareil, il y a eu tout un délire longtemps dans l'ornithologie comme ça. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout le cas, hein, qu'on avait complètement naturalisé nos comportements patriarcaux sur le vivant. Et en fait, on se rend compte que le chant, il a vraiment comme fonction d'être une sorte de présentation de voisinage. Donc là, il faut imaginer que quand les oiseaux d'une même espèce chantent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils comprennent les espaces dont chacun a besoin, et en fonction, ils adaptent les leurs, quoi. Et on est vraiment dans quelque chose qui tient plus de la politique que du conflit, quoi.
C'était Merle des Naturalistes des Terres qui nous emmenait en balade. Et des actions comme ça, bah, du coup, vous essayez de les multiplier, de les inventer et de les rendre plus créatives. Et on a envie d'en savoir plus. Je vous laisse les micros.
Ouais, du coup, effectivement, des balades naturalistes, c'est des choses qu'on peut proposer. On en propose même ici, pendant les résistantes, des sorties rapaces, des sorties plantes et pastoralisme, entomologie. Ce soir, il y a une sortie chauve-souris et sauterelles qui émettent des ultrasons.
À 20h45.
Et c'est une très belle manière d'intensifier des liens avec le milieu du vivant. C'est une très belle manière de faire surgir comme ça des espèces dans notre paysage mental et changer le regard et développer une attention aux détails. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir. Par ailleurs, en réalité, une des lignes un peu directrices de ce collectif, et on n'en a pas encore vraiment parlé, c'est au-delà de la contre-expertise et des inventaires et des contre-inventaires, en tout cas au-delà de mettre au service des luttes un savoir naturaliste qui inclut également des protocoles, etc., très sérieux, ça va être aussi de concevoir des actions directes qui sont co-construites avec des luttes locales, avec des gens qui habitent un territoire, pour la simple et bonne raison que ces personnes-là connaissent bien le territoire et du coup savent nous guider aussi dans leurs besoins. Et donc, pour reprendre un peu un exemple d'un détournement d'aménagement du territoire qui a été fait par des naturalistes des terres au printemps, c'est dans la tourbière du Bourdet en Deux-Sèvres où une équipe est allée renaturer une tourbière qui est en train de se dessécher petit à petit. Malgré des demandes répétées des institutions de protection de l'environnement de cet endroit-là, qui peinent en fait à obtenir les autorisations nécessaires et à faire tous ces dossiers administratifs qu'il faut que ces institutions fassent pour mettre un pauvre petit barrage dans une tourbière pour essayer tant bien que mal de retenir l'eau dont le cours d'eau a été buzé en fait en aval par des agriculteurs qui font du maïs intensif et qui donc ont envie que l'eau parte pour pouvoir faire deux semis de maïs dans l'année. Et donc voilà, ça c'était une des actions qui a été menée, c'est-à-dire on s'est en fait autorisé à prendre ce rôle d'aménagement du territoire que peuvent avoir les institutions, mais on y allait du coup à même le sol, encore une fois, sans regarder ça d'en haut. Et donc... Voilà, c'est quelque chose qu'on trouve important de donner en fait la possibilité politique à des naturalistes, à des personnes qui ont tous ces savoirs-là, en fait, qui savent très bien comment faire pour protéger des territoires, qui savent très bien comment les ménager d'une manière pertinente pour la survie de ces territoires-là et de la biodiversité, et de montrer qu'en fait c'est possible et qu'il est temps que chacun chacune s'empare de ces savoirs-là et de ces connaissances de son territoire, et donc aille mener des actions beaucoup plus déterminées sur place. Voilà, il y a d'ailleurs un groupe dans les naturalistes des terres qui réfléchit maintenant à des tutos de comment venir renaturer un milieu, comment venir creuser une mare. C'est notamment quelque chose qui a été fait pendant un autre week-end d'action à Rouen, qui a été du coup un week-end d'action co-organisé avec des collectifs sur place contre un projet autoroutier qui venait détruire une large, large bande d'une forêt magnifique, la forêt de Bor. Et donc pendant tout ce week-end-là, il y a eu plusieurs actions et plusieurs gestes de poser dans la forêt. C'était vraiment l'idée de venir réarmer la forêt, de l'outiller, de la mettre en défense, enfin en tout cas de lui donner toutes les chances possibles pour se défendre de ce projet-là. Et donc la création de mares pour peut-être y accueillir plus d'espèces protégées à l'automne. L'armement d'arbres avec des clous pour empêcher leur abattage, le détournement de signes ONF. Et tout au long de ce week-end-là, il y a eu un récit très fort, un récit naturaliste qui a permis du coup de donner au cortège des espèces étendards, des totems, de créer un imaginaire en fait très fort autour de cette forêt, c'est-à-dire qu'en allant poser des nichoirs à muscardin, qui est un petit mammifère trop mignon, en fait on était là en train de poser des gestes et projeter la venue de ce muscardin dans cette forêt, en tout cas sa prolifération qu'on espère. Il y a eu une forme de rituel un peu théâtral qui visait à appeler le grand capricorne, qui est un scarabée incroyablement cool aussi. Et donc, pareil, on se projetait dans un avenir en fait désirable pour cette forêt en posant tous ces gestes-là. Et c'est de là aussi, c'est de ce week-end-là qu'est née un peu la commission récit, parce qu'on s'est rendu compte en fait, en posant tous ces gestes et en créant ces récits-là, que ça donnait beaucoup de puissance à nos actions collectives, que ça permettait à des gens très très militants d'ouvrir leur imaginaire pendant ces actions-là, que ça permettait aux gens des territoires d'intensifier leurs liens avec tout ce qu'ils pouvaient vivre dans ces forêts. Et je vais finir sur un dernier exemple qui a eu lieu pendant ce week-end-là, c'est-à-dire qu'on avait ce récit très fort des espèces qu'on souhaite voir venir, qu'on souhaite encourager à habiter la forêt. Et donc le lendemain où tous ces gestes ont été posés, on a mis en place une action presque de compensation à notre manière, c'est-à-dire qu'on est allé casser un de nos corridors d'humains, c'est-à-dire une autoroute, pour y créer un corridor écologique pour le fameux grand capricorne scarabée, et donc lui permettre un peu symboliquement de revenir habiter dans la forêt, en sachant que son habitat pour l'instant est très très fragmenté par nos routes. Donc il y a eu comme ça tout du long du week-end un vrai fil rouge autour de ce qu'on projetait advenir dans cette forêt et la manière dont on avait envie qu'elle continue à vivre.
Alors toujours sur une thématique forêt, on va vous raconter peut-être un petit peu le dernier projet qui nous a rassemblés avec la commission Récits des naturalistes des terres, qui est une commission encore assez balbutiante. On s'est retrouvés du coup il y a à peu près 2 mois dans le Jura, sur le plateau de Balerne, dans un petit village qui s'appelle Loule, auquel moi je suis particulièrement attachée parce que c'est le village dans lequel ma grand-mère paternelle a grandi et dans lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et où, un collectif d'habitants et d'habitantes lutte contre la coupe rase de, aujourd'hui, 74 hectares de forêt pour y implanter des champs de panneaux photovoltaïques. Sachant que alors là, ça a déjà beaucoup réduit, c'était parti sur un projet de 400 hectares, 122, 80, on est à 74, surtout grâce à l'action de Jura Nature Environnement. Et du coup, donc le 24 juin avait lieu une journée de mobilisation à Loule, contre ce projet. Et du coup, avec une petite équipe d'une dizaine de naturalistes des terres, on s'est rendu là-bas et on y a passé quelques jours. Dans l'idée de... Donc, en fait, on a passé quelques jours là-bas pour essayer de comprendre un peu quel était ce projet, quel était aussi le récit porté derrière ce projet. Donc, un récit qui s'inscrit beaucoup dans la loi d'accélération des énergies renouvelables. En fait, la forêt est considérée comme un milieu dégradé. Enfin, en fait, pour pouvoir couper la forêt pour y mettre des champs de panneaux photovoltaïques, il faut que le milieu soit considéré comme dégradé. Là, il s'avère que dans cette forêt-là, il y a un parasite qui s'appelle le scolyte. Et que c'est un argument pour considérer cette forêt comme une forêt dégradée et permettre sa destruction. Et du coup, ça nous intéressait de voir peut-être comment on pouvait essayer de faire porter d'autres voix et d'autres regards sur cette forêt, qui est une forêt mixte, essentiellement composée de feuillus, et qui est une forêt composée de forêts anciennes. Nous, on y allait en se disant comment est-ce qu'on peut essayer de porter d'autres regards, peut-être faire parler des habitants et des habitantes de leur rapport à cette forêt et de comment ils considèrent ce milieu. Et en fait, donc c'est une lutte qui a été lancée en premier lieu par des chasseurs, parce que du coup, c'est un territoire qui est... Enfin, c'est les premiers usagers de cette forêt. Et voilà. Et du coup, on a passé quelques jours là-bas à essayer de faire quelques entretiens avec des habitants et des habitantes, et à découvrir un peu le milieu, faire quelques sorties naturalistes, et à essayer de réfléchir à quelle forme on pourrait donner pour porter justement d'autres récits autour de ce projet et de cette forêt. Et du coup, on est encore en élaboration, à essayer de réfléchir sur un processus peut-être d'assez long terme, à y passer 4-5 semaines dans l'année pour mener une enquête et construire, essayer de donner forme à une... potentiellement une représentation théâtrale, mais... Et du coup, là, en ce moment, ce qu'on est en train de réfléchir, c'est se dire... Une idée qui avait émané, notamment, via une personne de Jura Nature Environnement, qui nous disait, mais en fait, au Moyen-Âge, on faisait des procès d'animaux, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le procès du scolyte, en fait? Et on tirerait un peu cet exemple à l'absurde, pour essayer de voir, bah, si on prenait vraiment cette hypothèse au sérieux, que c'est à cause du scolyte qu'on détruit la forêt... Peut-être en essayant de déployer les chaînes de responsabilité, on se rendrait compte de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le scolyte se répand autant dans nos forêts et que ce serait une manière un peu ludique et sensible de faire changer un peu le récit dominant qui aujourd'hui circule, que cette forêt est une forêt dégradée et que du coup ce n'est pas grave de la couper. Et voilà, et sachant que le porteur du projet dans son livret, donc le porteur du projet qui est Seven Energy, dans son livret qui explique le projet, explique que, en fait, à cause du réchauffement climatique, la propagation des feux de forêt se fait de plus en plus régulière et que, du coup, ce projet permettrait de ralentir la propagation des feux de forêt. Donc voilà, c'est effectivement, couper les forêts, ça permet d'éviter les feux de forêt, mais est-ce que c'est l'avenir que l'on désire? Je ne sais pas. Voilà.
Peut-être, en fait, ce qui est intéressant là, dans cette rencontre et le fait que vous ayez insisté pour faire venir Anti avec nous à la table aujourd'hui, c'est que de votre point de vue de naturaliste, vous êtes venu à voir cette commission récit et vous avez commencé à essayer de réfléchir et inventer des choses et vous avez rencontré des collectifs qui essayaient, enfin qui avaient déjà mis ce genre de démarche en œuvre, comme par exemple du coup Anti qui va nous présenter son collectif Grammar, si je ne me trompe pas.
Tu te trompes. C'est Gamar.
Voilà.
Gamar, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une petite espèce invertébrée qu'on trouve dans les cours d'eau. La plupart des gamars sont des crevettes d'eau douce. Alors, c'est pas exactement des crevettes, mais c'est ce qui, dans l'imaginaire collectif, s'y rapproche le plus. Voilà, et du coup, c'est des petites crevettes qui font quelques millimètres et l'espèce en particulier qui nous a intéressé nous dans notre histoire, c'est le Gammarus pulex, parce qu'il y a une série de gamars, il y a une très très longue liste d'espèces de de gamars et du coup, en fait, cette petite espèce, pourquoi est-ce qu'on a un collectif qui se nomme d'après cette espèce? C'est moi, j'habite à Marseille, et à Marseille, il y a un cours d'eau, un petit fleuve côtier qui traverse les quartiers nord de Marseille, qui prend ses sources autour de... Septem et Bouc-Bel-Air qui traversent les quartiers nord jusque le grand port maritime dans la dans les quais d'Arinc. Et en fait, c'est un petit cours d'eau qui, comme énormément de cours d'eau urbains, ont été complètement absorbés, voire dévorés par le métabolisme urbain. Et donc, dans ces 17 kilomètres de vie, il y a une carrière et cimenterie Lafarge à son qui capte en fait ses sources au niveau de l'embouchure. Il y a une autoroute qu'il traverse, il y a le Paris-Lyon Méditerranée qui est en fait un des premiers chemins de fer qui reliait Paris à ses colonies. Et donc il y a toute cette histoire coloniale, donc il est coupé, ce ruisseau est coupé de toutes ces histoires là et puis il se jette dans le grand port maritime. Et sur son embouchure est construite une tour qui est la tour de la CMA-CGM, et donc qui est je sais plus si c'est 3e ou 4e leader mondial du transport de marchandises par conteneur. Bon voilà, c'est, en gros ça veut dire des très très gros et des très très impactants sur nos modes de vie, et, que ce soit nous et, ou les autres espèces que nous. Mais, et donc en fait, bref, tout ça pour dire, je m'égare un peu, que dans cette histoire-là, bon, bah, c'est la question des récits quoi, et donc dans cette histoire-là... par exemple, nous, ce qu'on a beaucoup fait, c'est justement à l'inverse de ce que tu nous décrivais au début, Liam, c'était l'idée de, plutôt que de partir d'actes que cartographiques, d'ailleurs, on va d'abord commencer par aller marcher collectivement et faire des enquêtes collectives à travers la marche le long de ce cours d'eau qui était invisibilisé, oublié, qui était devenu pour tout un tronçon un morceau d'égout qui a été pris dans l'histoire industrielle des quartiers nord de Marseille, etc. Et du coup, on a été marcher et en fait, on s'est retrouvé à marcher collectivement avec les égoutiers, avec des scientifiques, avec des associations locales, avec des habitants, habitantes, avec des artistes aussi, et dans ces scientifiques, il y a un des scientifiques de l'IMBE qui nous a raconté l'histoire de ce gamard. Et le gamard, du coup, il a un cycle de vie assez particulier où c'est un espèce de chaînon entre l'aval et l'amont du cours d'eau, dans le sens où donc là c'est un peu, je grossis le trait, mais grossièrement ce gamard en amont du ruisseau se fait coloniser par une petite par un petit ver qui vient parasiter son système nerveux, et donc le gamard se met à danser de manière un peu sauvage dans la colonne d'eau et du coup plus du tout à prendre les précautions nécessaires pour se protéger des prédateurs et il se fait manger par un chevesne, par du coup un poisson qui est plutôt en aval du ruisseau, et en fait ce petit ver, pour pouvoir se reproduire, a besoin des enzymes qui sont présentes dans l'estomac du chevesne, et du coup il utilise le gamard pour faire ce lien entre lui et son besoin reproductif. Et donc cette histoire là c'est une histoire un peu c'est des histoires un peu ambiguës du monde naturaliste, et qui en fait est devenu aussi pour nous un symbole de la continuité écologique, parce que ce cours d'eau en fait il est sur plusieurs communes, dont la principale est Marseille, mais pas que, il y a Septem, surtout Septem, et en fait il n'a pas le même nom en fonction de la ville dans laquelle il est, et que cet enjeu de à Marseille on a le nom dominant, c'est devenu les Égalades, et à Septem le nom dominant est devenu la Caravelle, et pour ne pas rejouer le geste colonial de décider quel serait le vrai nom de ce ruisseau, on a décidé de plutôt prendre comme emblème d'un collectif qui prendrait soin de ce ruisseau cette espèce qui fait cette continuité écologique entre l'amont et l'aval. Donc voilà pour une petite histoire de comment est-ce que ça a réussi aussi à régler des problèmes de conflits potentiels de collectifs qui par ailleurs essayent de lutter pour la défense de ce ruisseau.
Ce collectif, depuis, il s'intéresse plus largement aux questions de l'imaginaire des rivières et des bassins versants.
Donc on n'est pas du tout les seuls non plus à travailler ces imaginaires-là. On a rencontré aussi d'autres collectifs comme le collectif Hydromonde qui travaille beaucoup là-dessus. Mais c'est une des choses, effectivement, quand on essaye de renouer ce caractère expérientiel qui a été déjoué historiquement dans nos rapports au milieu et au vivant, on se rend compte que ce qui fait sens d'un point de vue écosystémique, on peut le perdre très facilement. Et donc en commençant à chercher à prendre soin d'un ruisseau et de voir qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les gestes de soins qui peuvent impliquer des gestes de lutte contre des projets d'artificialisation, etc. À quelle échelle en fait il existe le ruisseau, et très vite on comprend que le ruisseau c'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus complexe que ce qu'on nous apprend, qui serait un trait bleu sur une carte qui irait d'une source à une embouchure, qui est un imaginaire très géométrique, mais de comprendre que le ruisseau par exemple il a quand tu ouvres un manuel d'hydromorphologie, par exemple, le premier truc qu'on te dit, c'est un cours d'eau, c'est un débit liquide, mais c'est aussi un débit solide. Et donc, c'est toute l'importance que la rivière ne fait pas que transporter de l'eau, mais elle transporte de la matière organique, du sédiment, etc., de la vie aussi, du vivant. Et du coup, ça ouvre petit à petit les échelles d'imaginaire. Alors, l'imaginaire du bassin versant, c'est quelque chose qui a été très utilisé par les biorégionalistes américains sur la question des quelles seraient des unités géographiques plus pertinentes pour penser des modalités d'assemblée populaire, etc. Donc bref, ça va peut-être un peu trop loin, mais qu'en tout cas cet imaginaire-là, c'est de retrouver des unités écosystémiques qui en fait nous relient. Donc le bassin versant, très concrètement, c'est sur un espace donné, toutes les eaux qui tombent sur ce bassin versant vont se rassembler dans la même rivière. Et donc le bassin versant, il est démarqué par des lignes de crête. Et donc si la goutte d'eau tombe d'un côté ou d'un autre de cette ligne de crête, elle ne va pas tomber dans le même bassin versant, elle ne va pas finir dans la même rivière. Et ça, c'est ce récit-là, par exemple, il permet de développer des imaginaires de solidarité. Et donc de dire comment est-ce qu'on travaille cette solidarité à l'échelle d'un bassin versant, etc. Donc il y a plusieurs pistes qu'on essaye d'ouvrir. Et donc ça, c'est aussi un autre collectif qu'on appelle un peu les hydrofurieuses, naturalistes des terre hydrofurieuse, on sent qu'il y a une familiarité et qui du coup essaye de travailler à ces imaginaires là aussi, et de comment est-ce qu'une meilleure compréhension des cours d'eau peuvent activer d'autres solidarités, d'autres modalités de lutte, d'autres modalités d'action. C'est pour ça que cette rencontre est très joyeuse entre les hydrofurieuses et les naturalistes des terres.
Alors peut-être on va arriver à la conclusion, mais j'ai quelque chose que j'ai noté à plusieurs reprises dans ce que vous dites. Il y avait d'abord cette idée d'une forêt dégradée qui du coup ne mériterait pas d'être sauvegardée. Ta voisine a parlé d'une recherche de l'espèce protégée qui aurait été un peu le Graal qui permettrait de sanctuariser cet espace. Et on a l'impression que ce qui joue là-dedans, c'est quoi les espaces qui méritent d'être conservés. Il y a un peu un enjeu comme ça, et il y a la définition du droit qui dit ça c'est protégé parce que voilà, c'est sous, il y a un nom, il y a un label, c'est comme ça, et puis il y a le reste. Et le reste, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est porteur de signifiant, et en fait il y avait quelqu'un qui disait au début que j'arrivais à la date, je trouvais pas ça très beau. C'était voilà, pour peu que ce soit pas la bonne saison, c'est vrai que c'est... Et en fait, il dit, à force de pratiquer ce bocage, avec les cavernes qui sont montées, les inventaires qui ont été faits, en fait, c'est devenu beau. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et j'ai l'impression que dans ce que vous dites, il y a vraiment cette idée-là, c'est que peut-être une capacité à définir nous-mêmes ce qui mériterait, et ce serait quoi le niveau zéro. C'est-à-dire que quand je parle de la compensation écologique, il y a un truc assez frappant, c'est qu'une forêt spontanée, pour eux c'est pas bien, parce que c'est précisément, ça n'a pas été produit. C'est-à-dire qu'en fait la nature a repris ses droits, et donc en fait parmi les mesures compensatoires le plus souvent produites, notamment ici, là on est dans le Larzac, avec la déprise agricole, la nature reprend ses droits, et puis la forêt spontanée reprend, et pour eux écologiquement c'est pas intéressant parce qu'il y a peu d'espèces, puis en plus ils sont pas très rares. Et du coup, on va raser la forêt, on va y remettre du pâturage, et puis ça permettra de nouvelles espèces de venir. Et moi, j'ai pas de jugement de valeur sur ça. Je dis juste que à ce moment-là, c'est eux qui définissent ce qui va être protégé et pour y mettre quoi, et c'est quoi qui est bien à sauvegarder. Est-ce que c'est une pratique agricole ou quoi? Et du coup, peut-être là-dedans, c'est ça qui est en jeu peut-être finalement en partie dans ce que vous faites.
Oui, en tout cas, il y a plusieurs choses dans ce que tu as soulevé, mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, ces histoires, et Anaïs, elle disait, elle parlait de balbutiement, mais en fait, c'est parce que vraiment, on hérite d'un imaginaire hyper appauvri, en fait. Du fait de justement cette désanimation des savoirs naturalistes et du fait aussi peut-être de cette coupure relative, parce qu'il y avait quand même ce matin 40 personnes qui se sont levées à 8 heures pour aller faire une balade naturaliste, donc il y a en tout cas une envie de renouer avec ça, c'est clair, mais on n'a pas encore ces histoires qui nous permettent de raconter et de défendre des territoires ou des espaces de nature parce qu'on y est attaché, en fait. Voilà. Et la manière d'accorder de la valeur, elle est, ce que tu as dit, elle est patrimoniale, elle est économique, mais elle repose pas sur des... Elle repose peu, en tout cas, sur des attachements qui sont peu considérés parce que c'est difficile de les raconter, en fait. Parce que la nature a été complètement unifiée, en fait, et que du coup, il faut une histoire par attachement, quoi, presque. Voilà.
Mais il y a un autre élément qui prolonge ce que tu disais, Anne, mais un des trucs que je trouve très fort sur ces questions des savoirs naturalistes, c'est peut-être, c'est un mot un peu barbare, mais en écoutant ta présentation aussi tout à l'heure, je pensais à la question de... injustice épistémique, ou je sais pas très bien en fait, c'est quel savoir ont la légitimité à poser quelque chose. Et pour une toute petite anecdote, c'est sur ces histoires, par exemple, de la recomposition de nos imaginaires sur ce que c'est que un arbre, par exemple, avec des Francis Allais ou des Gilles Clément et tout ça, je me rappelle avoir demandé récemment à une pépiniériste qu'est-ce que t'en penses de tout ça. Elle dit, je trouve ça super que ça pop un peu dans le discours collectif, mais c'est marrant de se dire que pendant 30 ans, moi, j'ai dit ça et on me prenait pour une folle, et que maintenant que ce soit maintenant que c'est légitimé par des bouquins, par des scènes médiatiques et tout ça, maintenant seulement on m'écoute. Et je trouve qu'il y a vraiment un enjeu comme ça, et je trouve que la manière dont tu as formulé ta question, elle invitait vraiment à se poser cette question-là, c'est quels sont les savoirs qui sont dignes de décider ce qui a de la valeur ou pas, quoi. Et je pense que c'est assez fort d'essayer de poser une revendication là-dedans et de dire qu'en fait il y a énormément de gens qui ont plein de savoirs naturalistes et qui savent pas exactement par où valoriser ces attachements. Enfin, ces savoirs et ces attachements, ils existent, et c'est juste on ne sait pas comment les faire passer à un niveau plus qui aurait une puissance politique, en fait.
Merci à vous tous pour vos témoignages, vos histoires. Et pour ce petit moment un petit peu de poésie interespèce, en tout cas cette promesse d'un futur développement de la poésie interespèce, ils vendent toujours sur le plateau du Larzac, la radio continue d'émettre. Pour clôturer cette petite heure de discussion, je proposais d'écouter un chant polyphonique de Greenham Commons, qui était du coup une action écoféministe.
They can't forbid everything, but they can't forbid. to shine, the kin shut my mouth when I think. They can't forbid the sun to shine, the kin shut my mouth when I think.
Can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything, but they can't forbid me to think. They can't forbid me everything.